One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va du côté des États-Unis, comme assez souvent, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs, tu vois, pour parler d'un polar un peu brut de décoffrage, un petit peu oublié, j'ai l'impression, aujourd'hui. Un polar qui date de 2006, qui s'appelle La peur au ventre de Wayne Kramer, Running Scared en anglais. Je suis avec mon ami Yannick Dahan pour en parler. Salut Yann.
Salut.
Et tu vas me pitcher. Moi, j'aime bien lancer les pitchs, en fait.
C'est moi qui vais pitcher les films, la putain de sa mère.
Exactement comme avec Arnaud, sauf que toi, tu le fais peut-être un peu plus facilement.
Je sais pas. Alors, attends, parce que celui-là, il est tortueux, puisque c'est quand même un film. C'est un film noir, hard-boiled, on peut dire ce qu'on veut, mais qui joue sur l'effet boule de neige. Donc, le postulat de départ, on va dire, on est avec Paul Walker, qui est le personnage principal, qui est une sorte d'escroc qui bosse pour une petite mafia, et qui, dans sa petite où il a une femme et un gamin. Il vit à côté d'une autre maison où son voisin est le neveu d'un ponte de la mafia russe. Les deux gamins de chaque maison sont super potes et tout ce que tu veux. Et Paul Walker, un soir de magouille, après avoir fait un shoot-out avec ses potes mafieux, revient et doit planquer un gun.
Qui a servi
à tuer un flic. Donc il planque le gun chez lui sans se rendre compte que son fils et le fils du voisin ont vu où ils avaient planté le gun. Et comme le fils du voisin, enfin les voisins sont des mafieux russes complètement fucked up, le gamin du voisin décide de piquer l'arme pour aller buter
son beau-père.
Ouais. Et une fois qu'il lui a tiré dessus, il s'enfuit et ça devient une shitstorm pour Paul Walker qui doit absolument retrouver le pistolet avant que tous les personnes impliquées là-dedans l'apprennent. Voilà. Ouais. Donc ça devient après une sorte de course contre la montre pour retrouver le gamin, retrouver le gun. Et évidemment, bon, ça c'est le côté intrigue de base. Ce qui est intéressant là-dedans, je rentre dans le vif, hein,
vas-y,
et puis tu rebondiras derrière. Ce qui est intéressant là-dedans, purement en termes narratifs, hein, au-delà de tout ce qu'on va sans doute dire sur la facture du film qui est assez particulière, c'est la symbolique. C'est cette espèce d'enfant victime des violences d'un beau-père qui commet un acte censé le libérer et qui va donc se retrouver dans une sorte de road movie à travers une ville du péché, une ville du crime où il va découvrir toutes les horreurs de l'humanité les unes à la suite des autres. Et c'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez intéressant, qui rend le film extrêmement, extrêmement dur, extrêmement violent, mais qui lui donne aussi toute sa puissance symbolique, quoi. Donc ce postulat-là n'est pas juste un espèce de petit prétexte de film criminel dans lequel on va faire une succession de scènes choc. Tout ça est quand même drivé par un vrai discours sur la violence du monde, sur la cruauté de l'humanité et sur l'innocence de ce gamin.
Avec un point de vue qui est lié au gamin, qui ouais. est en fait que, en gros, lui, il perçoit ça comme un espèce de conte noir à la Grimm, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que, voilà, il y a. Ouais. Et ça bascule vraiment dans certaines scènes dont on va parler.
Ah oui, complètement.
Voilà.
Dans le cauchemar, quoi. Enfin, clairement dans le cauchemar.
Très bien pitché. Moi, je trouve, voilà, tu vois.
Je suis nul d'habitude pour les pitchs.
Non, mais là, c'est plutôt bien pitché. On sent que tu l'as revu il y a pas longtemps.
Voilà. J'ai revu hier soir.
Voilà. Et donc, si tu fais mieux qu'Arnaud Bordas, tu vois, sur le sujet. Parce que lui, je l'aime bien le lancer pour les pitchs parce qu'il,
il
n'y arrive pas. En fait, c'est ça qui est drôle. Ça prend toujours 3 minutes 30 et tout, tu vois. Donc, bref. Ce qu'il faut dire, alors, sur le film, c'est que, effectivement, c'est un film qui a été financé grâce à la présence de Paul Walker, qui était déjà à l'époque une star avec les Fast and Furious, ouais. les films comme ça. Donc il essayait justement d'utiliser son star power pour essayer de faire des petits films à côté qui généralement étaient...
Même si c'était pas lui qui était voulu au départ et par les prods et par Wayne Kramer.
Voilà. Moi je trouve que quand tu regardes le film, ça manque d'un...
Mais il voulait Mark Wahlberg.
Voilà, c'est ça, ça manque d'un Mark Wahlberg. Bah, tu sens que c'est ce genre d'acteur-là.
Il assure quand même beaucoup, moi je trouve.
C'est sûr qu'il est différent des Fast and Furious. Quoi.
Voilà,
je sais que toi t'aimes bien les Fast and Furious, mais moi je t'avoue que... voilà, je t'avoue que Paul Walker, c'est pas forcément, c'était pas forcément mon acteur préféré, même s'il repose en paix. Hein. Le truc, c'est que oui, il s'en sort bien, mais c'est pas forcément le meilleur non plus dans le film.
Non.
L'autre point, je dis ça parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir une appréhension pour certains auditeurs, en fait, d'aller regarder des films. Putain, ils me vendent un film avec Paul Walker, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est rien à voir avec Fast and Furious. Par contre, le film a plus des velléités de se rapprocher d'un style, et je trouve qu'il ne le fait pas aussi bien, mais ça, c'est vraiment pour la critique, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités, hein, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Il a la velléité de se rapprocher du style de Tony Scott, en fait, post Man on Fire, avec déjà une nervosité très spécifique, beaucoup d'effets
post-prod
en fait, qui moi je trouve plombe un petit peu le film aujourd'hui. Bah
oui, aujourd'hui, enfin c'est le truc qui est dur quand tu le revois, parce que le film a énormément de qualité, mais effectivement il y a quand même une surcharge d'effets post-prod. Pas toujours, il y a des moments où tu sens l'utilité, tu te dis ça a une raison d'être, et puis d'autres moments où ça devient juste factice, quoi.
Et mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que tu sens que c'est pas le style de Wayne Kramer, parce qu'il a fait d'autres films avant et d'autres films après. C'est pas son style à la base, hein. Il l'applique sur ce film là spécifiquement. Wayne Kramer, il s'est fait connaître avec un petit film qui s'appelait The Cooler, qui pour le coup était très très bien vu, avec Alec Baldwin,
bien reçu,
très bien reçu
en termes critiques.
Voilà, même si aujourd'hui c'est encore un film un peu oublié. T'avais Alec Baldwin, t'avais William H. Macy,
d'ailleurs j'ai appris
Maria
Bello. J'ai appris, je te fais une parenthèse, j'ai appris que Wayne Kramer avait quand même passé une bonne dizaine d'années à tanner les ayants droit, je ne sais plus lesquels c'est, pour sortir une version Blu-ray de The Cooler, et personne ne l'a...
Il y a un Blu-ray américain.
Il est peut-être sorti.
Américain, anglais, pardon.
Peut-être, voilà. Et il a eu beaucoup de mal, alors que ce film avait quand même... Tu vois, il a été au Festival de Cannes et tout, enfin... Il avait eu
une réputation, il avait une bonne petite réputation qui lui a permis de faire la pourvente derrière, et qui est un changement quelque part pas radical, parce qu'en fait tu sens qu'il y a une même volonté de traiter des personnages psychologiquement, de jouer avec un truc, de montrer des losers en fait qui un peu magnifiques, ce genre de choses, quoi, ce qui était le cas du personnage de William H. Macy, mais dans le cadre d'un polar brut de décoffrage très violent, qui ne s'excuse absolument pas de ce qu'il raconte et de ce qu'il fait.
Un film comme on ne pourrait plus en faire aujourd'hui.
Très probablement, hein, mais qui est déjà, je pense, c'était à la limite de la limite, hein, à l'époque.
Ouais, mais alors ça c'est très parti. Alors je fais une aparté là-dessus. Ça c'est une particularité de Wayne Kramer, qui est à la base un Sud-Africain. Sud-Africain qui a très très mal vécu l'apartheid et énormément de choses qu'il a pu voir dans son pays, et qui l'a dit lui-même à plusieurs reprises que en fait toute sa cinéphilie s'est faite sur la base de films censurés les trois quarts du temps. Donc d'où toute la scène du début avec le mafieux russe qui est un fan de John Wayne, mais qui fantasme sur le John Wayne qu'il avait vu et qui ne durait que 10 minutes dans sa jeunesse et dont on avait coupé le reste. Bah ça, c'est un écho à sa propre vie, et que très clairement il a dit que quand il a décidé de partir aux États-Unis, c'était avec l'idée, puis il s'est rendu compte derrière que évidemment la réalité correspondait pas à son fantasme, mais avec l'idée de pouvoir pousser les potards et de pouvoir essayer de transgresser en permanence et d'essayer de repousser les limites de ce qu'ils pouvaient faire.
Et c'est généralement d'ailleurs...
Donc en fait, ça se traduit pas mal dans ce film-là. Quoi.
C'est vrai, mais c'est aussi généralement le... Bon, il y a beaucoup... Hollywood s'est monté sur des réalisateurs immigrés, hein, donc voilà. Mais
je parlais de son rapport à la violence et à la transgression.
Mais justement, c'est intéressant justement des gens qui ont peut-être un fantasme en fait sur les États-Unis entre guillemets, qui ont toujours un petit peu joué avec ça, et en fait qui d'un seul coup arrivent avec le travers... l'envers du décor, et qui se disent il faut que je le retranscrive dans mon œuvre, en fait. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a un peu de ça, je trouve, avec GTA aussi. C'est des Anglais qui sont arrivés, enfin des Écossais qui sont arrivés, aux États-Unis, qui découvrent d'un seul coup ce que c'est vraiment d'habiter là-bas et d'être un membre de cette société. Et du coup, en fait, il y a cette violence transgressive, effectivement, mais pas que, il n'y a pas que la violence. Hein, c'est-à-dire que dès le début, par exemple, ça c'est aussi assez rare, mine de rien, dans le cinéma américain, t'as le personnage de Vera Farmiga, qui est un personnage hyper sexué, qui est la femme de Paul Walker, quoi, et qui en fait on te montre d'entrée de jeu avec
sa petite culotte en gros plan,
voilà, c'est ça, un string apparent pour te entre guillemets définir le personnage. Alors ça ne la définit pas en soi, mais ça te la présente, et
moi ça représente plus le si tu veux la façon dont il la montre représente plus le regard de convoitise. Pour moi, ça définit plus Paul Walker en réalité que ça ne définit ce personnage-là. Mais ce regard animal, ce regard bestial du type. Enfin, moi, je l'ai plus perçu comme
après,
ça.
Après, le truc, c'est surtout que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce de côté trivial pour te montrer en fait deux personnages qui sont amoureux.
Ouais.
Et mine de rien,
c'est très chouette.
C'est quelque chose qu'on voit assez rarement finalement dans le cinéma américain, parce que l'idée, c'est que dans l'amour, il y a la sexualité et la bestialité de la sexualité, quoi. Donc du coup, en fait, quand deux personnes s'aiment, ils ont envie de baiser, quoi. C'est ça le truc. Et en fait, là, il y a cette logique-là, en fait, dans le film.
Il est très malin, parce que le tout début où donc il focalise sur son string, il s'approche d'elle face à la machine à laver, et tu sens qu'il a envie de la fucker et qu'elle résiste un peu. Tu te dis, en fait, non, ils sont pas amoureux, c'est pas un vrai couple. Le mec, il est un peu fucked up, ça va pas bien se passer. C'est-à-dire, il joue sur ce clicheton-là et en fait, il te le démonte en deux, trois secondes, et où tu sens qu'il y a vraiment un truc profond entre les deux. Ça, c'est super bien amené.
Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, en fait. Effectivement, il y a ce que tu racontais sur le personnage du voisin russe, en fait, qui découvre, en fait, qui a découvert le cinéma américain à travers ces 10 petites minutes qu'il avait.
Et qui twist, pareil, qu'on te présente comme un psycho total et qui s'avère être, en fait, un mec moins pire que tous ceux qu'on va découvrir par la suite, quoi.
Voilà. Donc, t'as tout un tas de trucs comme ça. Bah, de toute façon, en gros,
De toute façon, c'est un crescendo dans les ordures.
Hein, voilà. Et surtout, il y a un espèce de truc, en fait, il y a un espèce de fonctionnement dans ce film, en fait, d'écriture, qui est qu'il y a un twist. À peu près toutes les 10 minutes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux...
Bah, c'est plus un effet boule de neige pour moi. En fait, il y a un truc... En fait, moi, j'avais regardé une interview de Wayne Kramer où il parlait... Bon, c'est un vrai cinéphile. Hein, donc, c'est quand même un mec qui a des références marquées, des réalisateurs qui lui sont plus proches que d'autres. Et narrativement, alors, étonnamment, plus narrativement que visuellement, où il est très inspiré par De Palma, il l'a toujours dit, et ce qu'il aime, c'est la dimension opératique. Ça se voit dès la première scène d'action, hein, où la caméra... D'ailleurs, c'est ça qui est un peu dommage en post-prod, c'est que ce que tu disais sur Tony Scott, ben, finalement, parasite quelque part un petit peu sa propre identité qui se traduit dans les mouvements de caméra, là où peut-être la référence à Tony Scott se fait plus en post-prod, et du coup noie un peu le poisson, là où il avait quand même un vrai parti pris.
Tony Scott, c'était des effets qui faisaient même le plateau.
Ben d'accord, voilà. Mais là, tu vois, c'est comme s'il avait rajouté une couche qui n'était pas nécessaire, alors qu'il avait déjà un point de vue qui était hyper intéressant dès le départ, qui est évidemment inspiré aussi un petit peu par les Coen. Et c'est pas innocent, parce que les Coen ont toujours, souvent, construit leur narration sous cet effet boule de neige où chaque petit élément va entraîner une conséquence. Et le film est pensé comme ça, quoi.
Si ce n'est que, donc, c'est un film beaucoup plus vénère qu'un film des frères Coen. Le ton et le rythme, en fait, est beaucoup plus,
hystérique, en fait.
Voilà, c'est ça. Et avec cette volonté, en fait, de tomber sur pire, effectivement, à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, dans la situation, d'un seul coup, par exemple, alors, on va rentrer dans c'est parce que moi, c'est une des scènes fondamentales
du film. Ah oui, c'est celle qui a marqué tout le monde.
Ce moment où il essaye de se cacher, en fait, le gamin qui rentre dans un van. Mmh. Ils sont dans un van avec deux autres gamins, en pleine nuit, parce que c'est un truc à la After Hours, c'est-à-dire que ça se passe sur une nuit.
Sur une nuit.
Voilà. Et qu'en fait, les deux gamins, en fait, les deux autres gamins, vont être kidnappés par deux pédophiles, un couple de pédophiles, quoi. Et donc là, on tombe sur une scène très étrange qui va, en fait, virer. Alors, on spoil un peu, hein, je suis désolé mais qui va virer, en fait, au vigilantisme, en fait, voilà. Et en fait, qui, pour le coup, et moi, je trouve le film bascule vraiment à ce moment-là, en fait, dans son intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, tu comprends exactement avec cette scène.
Ce qu'il veut faire,
avec le film.
La profession de foi du film.
Voilà, avec justement des plans où le gamin est caché dans la salle de bain du couple, en fait, pour essayer d'appeler le personnage de Vera Farmiga, pour essayer de se sortir de cette situation. Et d'un seul coup, en fait, la caméra panote sur les reflets, en fait, de pas du miroir, mais de la.
L'ombre des pédophiles qui apparaissent comme des monstres, en fait.
Qui apparaissent comme
sorcières,
des monstres, en fait, dans l'ombre, etc. Et du coup, ça fonctionne très très bien parce que c'est la vision de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment du point de vue du gamin. Et de la façon dont il perçoit, lui, dans son univers à lui, les monstres. Voilà. Et ce qui est en plus une vraie bascule, dans le sens où, on te montre dès le début que c'est un gamin battu, c'est-à-dire il a des coups dans le dos, des trucs comme ça, et il n'a pas cette vision de son parâtre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, son beau-père, il n'a pas cette image-là du beau-père. Au contraire, il lui tient même... l'autre, il a une adoration de John Wayne. Le gosse lui dit que John Wayne, c'était une pédale. Quoi. Donc, voilà, il le défie littéralement.
Non, mais clairement.
Donc, il y a vraiment une construction comme ça, en fait, qui est hyper, hyper forte dans un film qu'on peut regarder, effectivement, aussi au premier degré, dans l'absolu.
Oui,
c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un polar.
Ça fonctionne comme un polar, mais peut-être aussi qu'on même si on le voit... Cette dimension évidente, métaphorique, à travers cette scène, comme tu as raison de dire, c'est une bascule dans le film. Et il ne tient pas totalement jusqu'au bout, ce truc-là. C'est-à-dire, moi, j'en ai vu quoi ? J'ai vu 2-3 films de Wayne Kramer, et à chaque fois, j'y vois des idées hyper intéressantes, j'y vois des éléments thématiques très forts, qui apparaissent dans des scènes de manière flamboyante par moment et c'est pas tenu forcément jusqu'au bout, et cette scène là elle apporte clairement cette dimension là et j'ai quand même le sentiment, alors en le revoyant ça me l'a confirmé encore plus, ce sentiment que il avait fait ça et il savait pas, il n'exploitait pas, il rebondissait pas sur cette thématique pour l'amener complètement jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu vois, il y a des... C'est comme si tu avais des envies, des volontés thématiques qui apparaissent à un moment donné, puis après, je me fais rattraper par le ludique, plus que le symbolique. Même si le film tient grave la route, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ce film. Mais j'y sens quand même un mec qui continue de chercher plus que d'être exactement sûr de ce qu'il est en train de faire. Tu vois ce que je veux
dire ? En fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec ce film, c'est ce qui fait tenir le film pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, 15 ans après, parce que c'est un film qui a maintenant 15 ans, hein, ouais. 15 ans après l'avoir découvert à l'époque, ce qui nous faisait, moi, je pense que ce qui me faisait kiffer, en tout cas personnellement, quand j'ai vu le film à l'époque, c'est de me dire, ah ouais, il y a plus de rebondissements dans ce film que dans tout le cinéma français, quoi. Tu vois, j'aime bien utiliser cette phrase à la con, mais tu vois, c'est une manière de dire, voilà, il se passe tout le temps des trucs et je suis jamais vraiment, comment dire, il y a peut-être un ou deux twists de trop, peut-être un reveal à la fin qui est un peu trop, comment t'appelles ça, téléphoné, mais c'est pas grave, en fait, parce que le truc, c'est qu'il y a une générosité, une envie, effectivement, de tomber dans le ludique, comme tu dis, qui était, voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de appelons ça du contenu, hein, tu vois, qui font ça.
Oui,
c'est-à-dire, juste, même en s'en foutant littéralement, aujourd'hui, de la structure narrative, c'est-à-dire que tant qu'il y a un twist...
Oui, c'est ça.
Voilà,
on est dans la fuite en avant de péripéties et de situationnelles des fois forcées.
En partant du principe que t'as oublié les 10 premières minutes du film ou les 20 premières minutes du film.
C'est ça. Alors,
quand t'arrives à la fin, tu vois.
C'est ça. Et sans faire de comparaison hasardeuse, c'est juste état d'esprit créatif. Il a cet état d'esprit créatif qu'avait qu'un McGee sur Smoking Aces, c'est-à-dire...
Ah non, un Carman, tu veux dire.
Carman, pardon. Ouais. Sur,
alors, comment t'as pu comprendre les deux? McGee.
J'ai dit McGee, ou là, je suis devenu fou. Non, Carman, oui, effectivement. Où malgré tout ça, malgré la dimension ludique, malgré l'exercice de style, malgré la caméra virevoltante où je fais entre guillemets un cinéma maniéré, je l'assume parce que je me revendique autant d'une certaine cinématographie que du roman graphique, parce que c'est ça aussi la peur au ventre, je suis capable en 2 minutes 30 de te peindre des personnages extrêmement bien définis, extrêmement attachants ou pas, mais qui produisent une émotion et qui sont extrêmement cohérents les uns avec la suite des autres. C'est-à-dire, c'est pas des persos balancer fonctions qui tiennent sur une idée. Voilà, l'exposition des personnages te détourne toujours, même si c'est en 10 secondes, la première idée que tu peux avoir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où tu vois, t'as un scénariste derrière, quoi, voilà. Véritablement.
Et du coup, avec le recul, l'idée, je trouve, c'est que justement, en fait, que le film continue à arriver à proposer ça, même si je suis d'accord avec toi. En fait, moi, le problème, je pense que je l'aborde plus sur une problématique de ton. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que. L'effet de boule de neige dont tu parles, c'est que en fait le film va crescendo aussi dans l'hystérie.
Ouais.
Il aurait mérité en vrai d'être plus un roller coaster, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, d'être plus en fait d'une montagne russe où t'as des hauts et des bas dans le ton, dans la tonalité, ce qui fait que ça l'aurait rendu peut-être plus entre guillemets digeste. Non pas que le film soit pas digeste en soi, mais ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que ce que j'entends par là, c'est vraiment cette notion que on se perd un peu dans les gueulements. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le temps,
Et
par exemple, la scène finale avec le pimp, quand il le trouve ça aurait dû être quelque chose en fait qui est beaucoup plus zen, parce que justement, à ce stade du récit, ils ont géré plus ou moins ce qu'ils avaient à gérer.
Oui.
Et il reste ce connard-là à terminer parce qu'en fait, il était dans le récit. Mais en fait, ils auraient dû l'aborder de manière beaucoup plus...
Mais je pense qu'en même temps, le parti pris...
Zen, entre guillemets.
Ouais,
quoi, tu
mais
vois.
Le... Je pense qu'il avait cette volonté d'asphyxier le spectateur. Je pense que oui, ça aurait peut-être donné un film entre guillemets plus digeste. Je suis d'accord parce que tu te le retapes et effectivement
plus cohérent, c'est cohérent quoi.
Et puis c'est un ride difficile. Mais je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de tu sais la scène de début. Et quand même, elle se pose là en hystérie, en mouvement de caméra.
Ah, mais elle est cool.
Elle est cool, hein. Il y a un plan
au ralenti avec le mec qui dégage contre le mur avec
c'est
le.
Clair, non, elle est vénère, elle a déjà plein d'idées de réel, elle est déjà, tiens, regarde comme je filme. Donc, mais elle est déjà anxiogène, quoi, en termes d'intensité. Et après, t'as clairement cette idée, je vais pas débander.
Mais justement, en fait, il y a ce truc où il pose des effets de mise en scène, en fait, on va dire, de narration même. En essayant de dire alors comment ça s'est passé, vous avez ce point de vue là mais je vais vous montrer l'autre point de vue de l'autre côté, et du coup il le fait 2-3 fois et ça fonctionne plutôt bien parce que en fait c'est quelque chose qu'il a pensé sur le plateau, c'est à dire c'est le reste en fait, les effets de post-prod qu'il a rajouté derrière pour on va dire intensifier encore plus le film, qui bon moi je trouve un petit peu vieilli parce que à l'époque on pouvait se dire bon c'est cool, le mec c'est clair, il a vu Tony Scott, il a vu Man on Fire, il a vu Domino, je sais pas quoi, il rajoute ces trucs là mais et puis c'est pas aussi, par exemple Domino ça va très très loin pour le coup.
Non mais moi j'ai du mal même avec Domino, moi j'ai du mal.
Bah Domino il y a des trucs super, mais c'est vrai que bon pour le coup il a pas le scénar qui va avec, moi je trouve, c'est-à-dire il a un scénar un peu plus couillon Tony Scott là-dessus que Man on Fire quoi. Man on Fire avait une vraie charpente du coup vraiment
puis même quand tu repenses là sur la peur au ventre, il y a cette espèce de démonstration d'exercice de style ludique dès cette première scène où t'as quand même un petit peu ce côté, je mets toutes ces cartouches un peu dans tous les sens. À ce moment-là, je te fais un truc qui est fou et qui n'est pas forcément repris tout le temps par la suite. À certains moments, il osse des plans. À certains moments, il fait de l'opératique à sa manière. Mais il y a quand même, malgré tout, un petit côté brouillon en réal qui pour moi, est simplement le signe d'un mec qui en était à son troisième film ou son premier film avec un budget un peu plus confortable.
Et encore, c'est pas génial. C'est 15 millions de dollars, c'est pas énorme. Hein.
Oui, bien sûr, que les précédents. Et c'est un film... Enfin, pour moi, c'est dommage parce que Wayne Kramer est un mec intéressant qui s'est fait quand même taper dessus peut-être justement par excès de désir transgressif ou excès d'appuyer là où ça fait mal alors qu'il ne voyait pas que le monde était en train de s'aseptiser derrière, ce qui a abouti finalement au crossing over qu'il a fait avec
mais ça c'est un film qui a été
mais qui a été charcuté oui non mais je veux dire il a vécu ça aussi, c'est-à-dire il y avait paraît-il moi j'ai vu que la version qui est sortie et qui est difficilement tu peux pas en dire tu peux pas dire que c'est génial, mais il y a viré tous les éléments les plus transgressifs, il y a viré une sexualité débridée comme il pouvait la traiter avant. Bon, j'ai l'impression que c'est un mec qu'on a par la suite castré alors qu'il en était à mûrir. Moi je pense que même la peur au ventre est encore un travail d'expérimentation où je cherche la façon dont j'ai envie de raconter les histoires, et petit à petit il aurait sans doute gagné dans cette zénitude que t'évoquais tout à l'heure.
Je parle de zénitude, c'est pas tout à fait de la zénitude, mais en tout cas si tu veux par exemple c'est en fait pour regarder les besoins de la scène et de la traiter de manière adéquate. Et en fait, je trouve que justement, en fait, parce qu'on a un petit peu expédié cette scène vite fait, mais qui est une scène charnière dont je parlais, la scène des pédophiles, c'est une scène sur laquelle il fait ça. C'est-à-dire, en fait, il regarde les besoins de son récit, et en fait, il adapte sa mise en scène à ça. Et pour moi, en fait, il le fait très très bien dans cette scène-là, parce que t'es vraiment pris dans le feu de l'action, et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, en fait. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, tu sais pas ce qui va se passer, en fait, dans cette scène.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que même si le film est globalement un film hyper intéressant, il y a des différences de niveau entre séquences. Il y a des trucs où tu te dis, bon, bah, dans ta première scène, je vois, tu fais ton sale gosse, entre guillemets, mais elle n'est du coup pas à la mesure de cette scène charnière où le film aurait été pensé intégralement de cette manière-là. On aurait eu sans doute quelque chose qui se pose davantage et qui serait resté encore plus, je pense, dans l'inconscient collectif. Quoi.
Parce que le truc, en fait, alors je vais aussi repréciser quelque chose, parce que tu as parlé de Crossing Over, les gens ne savent pas forcément ce que c'est.
Oui, c'est le film qu'il a fait après avec Harrison Ford, qui est sorti direct en vidéo.
En tout cas, le problème de ce film, c'est que c'est un film qui... C'est un film qui se voulait à la Trafic,
un film choral entre guillemets sur l'immigration,
à la Collision, la Crash, le film, ce genre
mais
de film.
Produit par Weinstein.
Produit par Weinstein, et donc Weinstein a comment dire, a vraiment charcuté le film. Ouais. Après, personnellement, de tous ces films-là, je trouve que c'est quand même le meilleur de Crossing Over que Trafic ou.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Je trouve que ça tient beaucoup mieux, quoi.
Bien sûr.
Malgré.
Le mec, c'est un metteur en scène. Après, bon, moi, je pense qu'ils ont coupé ce qui était potentiellement devait sans doute prendre le film. Oui, puis. puis plus fluide et plus profond sans doute. Mmh. Là où ça reste un peu en surface quand tu le regardes comme ça. T'es pas impliqué émotionnellement là où je pense que c'est un mec qui va te jouer l'émotion justement dans des scènes intenses, dans des scènes plus dramatiques. Et je pense que c'est celle-là qu'ils ont coupée. Donc du coup, t'as un regard froid quoi, sur Crossing Over quand tu le regardes dans sa version tronquée. Quoi.
Non, mais c'est clair. Et il a fait un autre film après avec Paul Walker d'ailleurs, en fait, il s'appelait Punch on Chronicles.
J'ai pas vu ça.
Qui est une espèce de sous-Pulp Fiction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment la volonté de raconter trois histoires en fait, différentes qui vont s'interconnecter. C'est pareil, sorti direct en vidéo chez nous il y a peut-être 7-8 ans maintenant.
Tout petit budget, je crois aussi.
Tout petit budget aussi, oui. Mais de toute façon, c'est toute la problématique de Wayne Kramer. Je pense que la promesse de The Cooler, je sais plus comment ça s'appelait en français, mais c'était pas The Cooler, hein, c'était un autre titre, Lady Chance, c'était en français,
bon
nous, ouais, c'était ça, ouais.
Et, Lady Chance,
Lady Chance, ouais.
C'est et, pourri,
mais complètement pourri, mais c'était un film assez touchant, et je pense qu'en fait la promesse en fait de ce film-là pour pas mal de critiques n'a pas du tout été tenue à leurs yeux. Avec La Peur au Ventre, parce que justement, en fait, c'est un film sale. C'est un film qui est beaucoup plus brutal, brouillon
Puis il a pas Wayne Kramer, il a pas vraiment joué le jeu des studios. Hein, il le dit lui-même. Oui, on lui a proposé, des franchises, des suites de films, des Underworld. Il a écrit le premier scénario de Mindhunters avant que ça soit réécrit par 25
c'est
personnes
vrai,
derrière.
Ouais.
Donc non, je pense que c'est un franc-tireur. Je pense que le mec, il a envie de faire les films qu'il a envie de faire. Il a pas envie d'être juste un exécutant pour d'autres personnes. Et comme beaucoup de gens qui ont un absolu comme ça, un vrai désir artistique, il se fait bouffer par le système. Et au bout d'un moment, tu veux pas faire ce qu'on te demande, alors t'es tout seul dans ton coin et tu te démerdes. Mais là, je sais pas ce qu'il a fait depuis ce dernier film dont tu parles. Je sais pas où il en est.
Mais, il travaille sur des projets, mais le problème, c'est que ça tombe sur rien. Je pense qu'il a pas forcément non plus. Il avait des incohérences avec Paul Walker, hein, par exemple. Paul Walker était très très fier du film, lui. Apparemment, il était même.
Apparemment, il cherchait à faire d'autres films comme celui-là, La Peur au Ventre. Après, on a bien vu, le monde il a changé, c'est plus la même chose. Peut-être que Wayne Kramer devrait aller vers les plateformes où il aurait peut-être plus de possibilités de
mais
faire
même
des
là,
films.
Je suis même pas sûr qu'il soit attendu, en fait, puisque c'est pas un réalisateur. Voilà. Et le truc avec Paul Walker, c'est qu'il était déprimé apparemment par le manque de succès du film. Il faut dire que le film a été un peu bazardé par New Line. Hein.
Ouais.
Je pense que même ils se sont dit, bon.
C'est un peu vénère, là.
C'est un peu. Voilà, c'est à se demander. New Line, ils ont toujours une politique un peu étrange, en fait, y compris quand ils sont devenus un plus gros studio, quoi. Ils ont quand même une ADN qui leur poussait à chercher ce genre de projet et à les produire, quoi. Mais c'est un film, c'est aussi un projet un peu étrange. Ça se sent un peu, hein, je trouve, quand tu sais ça. Donc, c'est que, en fait, c'est pas un film qui a été tourné aux États-Unis pour la plupart du temps.
Hmm.
C'est un film qui a été tourné en Europe de l'Est.
Ah oui, c'est vrai, ils ont tourné à Prague.
Voilà, et en fait, ça se voit un peu dans les décors parce que tu sens que c'est pas l'Amérique, en fait, si tu veux. Alors, c'est l'Amérique du New Jersey à la base, hein, dans le film, c'est vraiment l'Amérique un peu bouseuse de l'Est. Mais même ça, à part les diners ou les trucs comme ça, c'est pas forcément toujours flagrant. C'est un film de nuit, c'est un film qui est beaucoup sur des parkings, sur des routes et des trucs comme ça. Donc voilà, il y a. Moi, je trouve que c'est peut-être aussi un des trucs qui manque, peut-être aussi un petit peu dans le film pour l'ancrer dans une forme réaliste.
Je l'ai pas ressenti parce que ce ride nocturne justement collait tellement pour moi à ce qu'il avait envie de faire.
Manque d'endroits emblématiques à part les diners, c'est ça.
Oui, voilà, oui. Dans ce cas-là, oui, j'entends ce que tu veux dire. Mais cette espèce de côté sale où de toute façon on va chercher des choses génériques entre guillemets, c'est-à-dire au-delà du diner et tout ça, c'est la sale boîte de nuit, c'est l'appart poisseux. Ces trucs comme ça, et je trouve que ça marche vraiment bien avec l'intentionnalité du film, et puis avec ce côté je suis dans une autre réalité, une espèce de réalité mafieuse, enfin on est quand même dans un film qui au-delà de sa symbolique et tout ce que tu veux est une mécanique ludique.
C'est d'ailleurs un des trucs assez jouifs du film, hein, dans
l'absolu,
c'est
ça, ouais. Qui fait que ça marche,
et d'ailleurs
mais il est abstrait, c'est des films abstraits comme on en fait comme j'ai envie de te dire on en fait aujourd'hui pléthore, mais des films abstraits creux, vide, là où c'est un film abstrait, si tu veux, qui a une...
Qu'est-ce que t'entends par abstrait ?
J'entends, il est hors de tout contexte réel, si tu veux, dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est peu importe le lieu, c'est peu importe la dimension sociale, c'est on est entre pourris, tu vois, c'est-à-dire tout se mélange. T'as les mafieux, les.
Ouais, c'est un monde interlope à part. Quoi.
La pute, voilà, c'est le monde interlope à part. Et quand je dis aujourd'hui, on fait des films abstraits, ça va aussi bien d'un film de super-héros à tout ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que c'est de l'abstrait, c'est de la coquille vide. Là où il a une logique abstraite, c'est-à-dire on est dans de la pure fiction, comme tu pouvais avoir des toute cette littérature de détective à la Dashiell Hammett et à tout ce que tu veux qu'il y avait au début du siècle, où aussi on était dans des mondes à part, le monde du genre. Et Running Scared, on est dans le monde
de toute façon, il y a un côté film noir assez prononcé.
Il est dans un type, dans un genre, dans une réalité de genre. Sauf que cette réalité de genre, et c'est ce qui nous plaisait, nous, traduit le monde symboliquement, dans de grandes questions symboliques. Là, on a évidemment la cruauté du monde, l'innocence des enfants, on a tout ça. Là où aujourd'hui, on a des œuvres abstraites qui ne disent rien, qui ne disent plus rien de l'humanité. Parce qu'il n'y a plus de personnages, en fait. Il n'y a plus de gens blessés, il n'y a plus de gens meurtris, il n'y a plus de gens qui ont des espoirs et des rêves. Tu vois, on n'est que dans le ricanement. C'est la bascule de deux types de cinéma. Et peut-être que ce genre de films-là, qui sont très particuliers, qui sont produits d'une époque, peut-être qu'il arrivait aussi vers la fin de ça, petit à petit, tu vois ce que je veux dire ?
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, ça m'avait fait penser à l'époque, alors, parce qu'il y a un point spécifique, en fait, qui est lié d'ailleurs au personnage du voisin russe, en fait. Je trouve qu'il y a un point de rapport avec le Perdita Durango de Alex de la Iglesia.
J'ai pas revu depuis longtemps.
Et notamment, le personnage de Javier Bardem, en fait, qui a aussi un trip sur Veracruz, pour le coup, lui, tu vois, il a un trip sur le western et tout ça, etc., etc., et il rêve de mourir en fait de la même manière que le personnage dans Veracruz, quoi. Et t'as un truc un peu similaire,
Génial pour ça, elle est super,
elle est similaire, elle est beaucoup plus visuelle dans Perdita Durango, parce qu'il rentre littéralement dans Veracruz, il y a l'extrait du film, alors que là c'est beaucoup plus lié à ce qu'on a vu au départ, tu vois. Mais il y a un peu cette volonté effectivement de polar, de film noir et de polar en fait alternatif. Oui. C'est-à-dire que voilà, et le truc, ce qui était devenu un peu mainstream à cette époque-là aussi, parce que en fait c'est ce que Tarantino a fait. Et j'allais finir mon anecdote sur Paul Walker, qui était déprimé par les chiffres au box-office en fait du film, qui rentre un soir chez lui, qui se rend compte qu'il a un message de Tarantino sur son répondeur qui lui dit « Moi, j'ai adoré Running Scared, c'était génial, fais-en d'autres comme ça. » Donc voilà. Apparemment, ça l'a requinqué. Après, il allait faire Fast and Furious 4.
Bien manger.
Je pense clairement qu'il l'a, pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui était vraiment pas dupe,
Qui n'avait rien à foutre, je pense, de Fast and Furious, c'est Paul Walker.
De ce que c'était Fast and Furious, et qu'il le faisait aussi pour,
il le fait, oui, c'était son beefsteak, quoi.
C'était bien lui, je pense.
Paul Walker était un mec plus intéressant que l'image qu'on en avait.
C'est-à-dire que c'est un mec qui a une image de surfeur. Je me rappelle avoir lu une interview de lui où je m'étais dit il a un vrai visage humain. C'est une interview qui date d'ailleurs de l'époque de Fast and Furious 2, ce qui est quand même j'ai envie de dire le pire, mais je suis même pas sûr, tu vois.
Non, t'as raison, c'est peut-être pas forcément le pire.
On est pas loin du pire. Je sais qu'on va s'attirer les foudres des grands fans de Fast and Furious.
Moi je suis un grand défenseur de Fast and Furious 5. J'adore ce film.
Moi je suis un grand défenseur de aucun Fast and Furious. C'est-à-dire que je les trouve tous à chier. Depuis le premier, quoi. Frappez-moi dans les commentaires. Quoi.
Moi, j'aime bien. Ça me fait rire.
Non, c'est vraiment. Pour moi, c'était déjà un énorme problème.
Moi, j'attends qu'il le fasse dans l'espace.
En fait. Neil Morris,
là, ce sera bien. Là.
Ouais. Non, mais là, je parle même plus des derniers. C'est plus possible. Ouais. C'est irregardable.
Moi, j'attends quand même de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme truc de. Non, mais les derniers, ils sont pas regardables. Mais tu sais, moi, je suis pas. Je m'en fous de l'incohérence, de l'absurde, la famille, kéké, tout ce que tu veux, et de musique de merde.
Ça, c'est un truc qui est arrivé depuis le 4-5.
Ou qu'on te fasse. C'est la dynamique, si tu veux. Je m'en tape, moi, qu'il me fasse sortir une Ferrari à travers un building de Dubaï ou qu'il y a un sous-marin nucléaire qui les pourchasse. C'est la rythmique. Fast and Furious 5, il a des scènes d'action qui sont super dynamiques et qui sont jouissives à mater en mise en scène et en montage. Et d'autres sont complètement ratés.
La mise en scène et le montage de Fast and Furious, c'est des clips de Booba. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bon, bref, allez.
Bon, bref. Un jour, on fera un stéroïde d'une heure et demie sur la saga Fast and Furious.
Je suis pas sûr.
Et je les regarderai tous et j'aurai plein de choses intéressantes à dire.
Le problème, c'est que moi, j'ai rien à dire sur ces films-là. Donc,
On trouvera quelqu'un d'autre. Avec Arnaud Bordaz, j'en parlais. Je suis sûr que ça l'intéresse. On parlera de la dimension christique de Fast and Furious. Ça l'intéressera.
Parce qu'il en a même pas vu un seul, je crois. Tu vois, il a. Je crois que même le 5, il l'a.
Mais ouais,
pas
vous
vu,
êtes quoi. Chiant là, il faudrait trouver une autre personne qui puisse aimer ce genre de conneries.
Bon, écoute, tu vas arrêter d'hijacker ce podcast là, tu vois, c'est un podcast sur la peur au ventre.
Et on finit sur Fast and Furious.
Finit sur Fast and Furious. Oui, mais en même temps, c'est effectivement le problème, c'est que c'est ce qui reste de Paul
mais
Walker.
D'ailleurs,
autour de Fast and Furious 7, c'est le trip en fait qui a été fait à l'époque à la sortie du film.
Ah,
en
oui,
tout cas, je sais pas aujourd'hui, mais c'était, il y avait un espèce de délire autour de sa mort et de la mort du personnage et de la sortie de route du personnage.
On est dans le dogme de l'émotivité facile et de l'affichage de.
Pour moi, c'est surtout
de larmoyante, tu vois, de ses croyances. C'est assez. La période est pathétique, donc forcément, le traitement des films l'est tout autant.
Oui, mais là, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est surtout que c'est la démonstration du fait que les gens sont tombés amoureux, non pas de l'acteur, mais du personnage, si tu veux, et qu'en gros, c'est sur ça qu'ils pleurent, en fait. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, oui, moi, je me rappelle d'une interview de cette époque-là, où il était beaucoup plus. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas du tout le surfeur à la con. Tu vois, c'est pas. Moi, quand j'ai une interview, c'est pareil, je vais pas me faire des amis, mais quand j'ai une interview de Matthew McConaughey, je me dis, mais il est complètement creux, ce mec. Tu vois, je veux dire, c'est du flan. Moi, j'aime pas du tout Matthew McConaughey, donc c'est du flan comme c'est du flan à l'écran, tu vois. Mais alors que Paul Walker, je me disais, putain, il y a une.
Je suis pas d'accord avec toi sur Matthew McConaughey.
C'est pas grave.
On fera un stéroïde sur Matthew McConaughey. J'exige, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas d'accord.
Ça suffit, quoi. Mais voilà, je me disais, il a quelque chose d'un peu plus. Il va chercher quelque chose d'un peu plus profond que.
Mais il y a toujours
l'image de l'acteur de Fast and
Furious. Il y a toujours eu un peu ça. Michael Biehn était pareil. On a essayé de nous vendre à une époque, entre guillemets, après Terminator, comme tu vois, le jeune premier, tout ça. C'est un mec vraiment vénère. Il paraît vraiment badass, quoi. Pour le coup, le mec, il est 10 fois plus badass que les rôles qu'il joue, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est chouette aussi avec certains.
Garde tes cartouches parce qu'on est censé enregistrer un épisode sur Time Bomb.
Ah, quel plaisir.
Il arrivera.
Joie.
Après, voilà. Donc, La peur aux ventes, c'est disponible en Blu-ray.
Ouais.
Franchement, si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment une de ces petits polars en fait un peu disparus aujourd'hui, mais qui valent vraiment le coup d'être vus. Merci Yann.
Merci
à la technique. Je n'oublie pas de le remercier cette fois. Merci à tous.
Merci Alain.
Merci à nos auditeurs. Merci à nos tipeurs. C'est grâce à vous qu'on est aussi prolifique. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee, 3e.com, et les mots-clés sont Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur tous les agrégateurs de podcasts. On a migré sur Acast aujourd'hui. Si vous voulez télécharger directement le MP3, c'est là-bas que ça se passe. Sinon, il vous reste les autres solutions, Spotify, Deezer, et SoundCloud aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine avec un prochain film.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.